Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Atelier des médias.
RFI.
Camille Milleran est un jeune photographe français. Cela fait longtemps que nous apprécions son travail dans l'équipe. Il a même été l'invité de cette émission à deux reprises. Il y a quelques jours, j'ai reçu dans ma boîte de courrier électronique l'annonce de mise en ligne de son dernier projet, Blade Runner. Un jeu de mots, bien entendu, où le terme blade, lame en anglais, est remplacé par bled, B-L-E-D, terme issu de l'arabe qui désigne le pays ou la contrée d'origine d'une personne. Blade Runner raconte en quatre étapes le périple de Kader, ivoirien de 31 ans, basé en Algérie, qui voyage de la capitale Alger vers son village natal de Kohonan en Côte d'Ivoire. Une expédition prélude à la réinstallation de Kader dans son pays d'origine.
Pourquoi on fait ce voyage? Pourquoi je retourne chez moi? Ça a beaucoup de sens. Là maintenant, je suis en Algérie, je travaille sur la thématique de la migration. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je reste là en train d'essayer de soigner une plaie qui ne guérit pas depuis extant. Ou je rentre essayer d'intervenir à la source.
Cela fait 10 ans que Camille Milleran photographie l'Afrique en s'intéressant aux personnes les plus simples, les moins visibles. Il a par exemple travaillé sur la vie des étudiants en Côte d'Ivoire ou celle des journalistes du quotidien Fraternité Matin. Ces images sont éclatantes de fraîcheur, de couleur, de réalisme. Elles montrent aussi bien l'intérieur de maisons de fortune calmes et modestes que les rues et leur intensité. On y sent l'amour de cet auteur pour son métier et son sujet. On y sent aussi et surtout l'effort et la patience pour apprivoiser des environnements complexes et difficiles d'accès.
L'atelier des médias.
Qu'est-ce qui peut pousser un jeune journaliste et photographe français à partir dans des pays lointains, parfois inhospitaliers, pour raconter des vies quotidiennes simples et sans phare? Vivre de la photographie est déjà une gageure. Choisir de travailler sur les migrants en Algérie ou les étudiants en Côte d'Ivoire tient du sacerdoce. Camille Milleran, l'Afrique dans le viseur, c'est une émission signée Simon De Creuse et Ziad Malouf.
L'Afrique, le continent, en tout cas, j'y suis allé une première fois à l'âge de mes 10 ans. Mon père m'a emmené en camion, j'ai arrêté l'école et on a fait 7 pays en camion, en taxi-brousse, avec plusieurs moyens de locomotion. On avait fait Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Et c'est un voyage qui était déterminant pour moi, pour la suite. Une espèce d'initiation à la rencontre de l'autre. Que mon père avait lancé comme ça, il ne connaissait pas non plus le pays et donc il avait décidé, il m'avait proposé qu'on aille le visiter, c'était en 1993, en allant dormir chez l'habitant, chose qui serait moins facile à faire maintenant. Et puis depuis, j'ai pas arrêté d'y revenir sur ce continent. Au fil des rencontres, donc cette photographe malienne Fatoumata Diabaté qui m'emmène au Mali au départ, la Côte d'Ivoire où j'y ai fait depuis 2009 plusieurs chroniques photographiques sur la question du statut d'étudiant et la jeunesse ivoirienne dans son ensemble, avec des chroniqueurs locaux, donc avec Israël Yoruba, Donatien Kanga. Et puis l'Algérie, j'y suis arrivé en 2010, j'avais animé des ateliers photos et vidéos en lien avec la mairie d'Aubervilliers. On était allé à Babeloued, on avait ramené 10 jeunes d'Aubervilliers qui avaient rencontré 10 jeunes de Babeloued.
Qui est un quartier d'Alger. Hein.
Qui est un quartier populaire d'Alger, tout près d'Alger Centre. Et puis depuis, c'était tellement fort comme séjour. Du coup, j'y suis revenu à peu près 15 fois depuis 2010. Au fil des visas, au fil de l'obtention des visas, ce qui n'est jamais une chose facile en Algérie. Mais en Algérie, rien n'est facile, mais tout est passionnant quand on accepte la temporalité du pays. Et au fil du temps, au fil de diverses rencontres algériennes, je fais la rencontre de Leïla Berato, qui à l'époque travaille à El Watan. Et puis, en fait, un jour, on se rend compte que la question migratoire n'a jamais été traitée. On fait la rencontre assez improbable de Fabrice, 45 ans, qui est camerounais et qui vit depuis plus de 15 ans en Algérie avec sa petite famille et qui nous propose de nous emmener dans sa maison qui est située à 30 km d'Alger. Et de là naît l'envie de documenter cette question. Les habitants, les résidents de sa maison acceptent notre présence au fil du temps. Donc au début, on la documente en photo, en son et en texte. Parfois avec des canaux de diffusion comme Le Monde ou RFI. Et puis un jour, on décide de passer à la réalisation d'un film. Donc film qui est en cours de montage actuellement et qui a reçu l'aide de la bourse de Béjaïa. Voilà, ça marque, c'est un moment un peu charnière 2018 pour moi. Parce que c'est 3 ans d'immersion dans cette maison. Et puis du coup, on décide d'écrire ensemble cette petite histoire qui prendra la forme d'un court-métrage de création de 26 minutes, on espère. Voilà.
Et ça, c'est Terminus Algérie, c'est ça ?
Ça, c'est dans le cadre du projet Terminus Algérie. Voilà. Donc Terminus Algérie, parce que en fait, on se rend compte que l'Algérie n'est plus seulement un pays de passage vers l'Europe, mais c'est un pays où on se sédentarise. Donc où on a retrouvé dans cette fameuse maison des Camerounais, des Ivoiriens, des Maliens, qui avaient toujours en tête de rejoindre l'Europe, mais avec les complexités de la Libye, le mur au Maroc, enfin. Une quantité de facteurs font que les gens en fait restent en Algérie et gagnent un peu plus d'argent que s'ils étaient restés chez eux. Et donc ça nous intéresse de travailler sur cette donnée-là, sur des gens qui finalement se réinstallent et coexistent dans une société algérienne qui a ses problématiques propres à elle, sociales, économiques, qui sont déjà très compliquées. Donc voilà, c'est un peu une société parallèle qui coexiste dans la société algérienne. C'est ça aussi qui nous plaisait. Cette maison nous renvoie à un espèce de huis clos où la question migratoire est centrale, mais où en fait on s'est attaché à des choses du quotidien, la banalité du quotidien dans cette maison.
Voilà, c'est la base, après la
maison. Ensuite, la valeur, elle ne change pas beaucoup.
La Josiane.
Je suis Fabrice Soso, Camerounais. Ça fait 16 ans que je suis en Algérie. Ah, j'ai 45 ans et je suis marié et père de 2 enfants. J'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 4 ans.
Alors là, on vient de sortir de la petite pièce.
Ouais.
C'est le premier étage donc, de la maison.
Le premier étage de la maison, oui.
Et au-dessus de notre tête.
C'est du vide. C'est le ciel.
Donc il n'y a pas de toit.
Pas de toit. Ouais, pas de toit.
Et cette maison, donc, elle n'est pas terminée, c'est ça? C'est ce qu'on appelle une carcasse.
C'est une carcasse. C'est une carcasse de villa, elle n'est pas terminée. Parce que nous n'avons pas assez d'argent. Et ici, au moins, on nous a accepté. Parce que parfois, même avec son argent, on ne nous accepte pas. Je vous ai parlé de cette stigmatisation. Ici, c'est où moi je vis. Avec ma femme, mes enfants, et l'univers à ma femme. Des portes qui passent, c'est un lieu où on peut s'asseoir ensemble, on parle, on discute, on parle du bled, on parle de nos pays respectifs, parce que nous ne sommes pas tous de la même nationalité.
Et qu'est-ce que ça raconte justement, donc, cette idée de l'Algérie qui n'est plus un lieu de passage, mais un lieu de vie pour des personnes qui ne l'ont pas choisi, qui peut-être même n'assument pas cette idée de vivre en Algérie? Qu'est-ce que ça raconte pour toi?
Bah en fait, assez rapidement, dans l'immersion que j'essayais d'avoir, en tout cas dans mes différents voyages à Alger, j'ai eu beaucoup de mal au départ à photographier ce que je voyais devant moi, ce qui se passait autour de moi, la famille dans laquelle j'étais. J'étais toujours un peu en retenue, un peu gêné, parce que l'acte photographique en Algérie n'est pas anodin. Ça réveille souvent des choses d'avant, ça réveille de la méfiance, ça réveille de la... Donc voilà, ça a toujours été complexe. Enfin, là, ça commence à se débloquer pour moi, je commence à comprendre comment faire, parce qu'en fait, j'ai appris à accepter la temporalité du pays, et puis j'ai fait des rencontres qui me donnent maintenant accès à des endroits où je peux photographier assez tranquillement, sans problème. Mais la rencontre avec la communauté migrante de cette maison, en fait, m'a renvoyé tout de suite aux différents voyages que j'avais faits auparavant. C'est-à-dire que cette maison, elle est sur 2 étages, elle a plus de toit, et il y a 8 chambres qui la structurent, qui l'organisent. Et dans ces 8 chambres, on savait plus si on était à Bamako, à Abidjan, à Dakar.
À Douala.
Ou à Douala, exactement. Mais Douala, j'y suis jamais allé. Mais en tout cas, voilà, les mêmes couleurs de murs, la même manière d'organiser la chambre, enfin. Et donc du coup, très vite, c'est un lieu, un territoire où je me suis senti à l'aise pour photographier et pour essayer de raconter ce qui s'y passe. Voilà, et en fait, y avait une espèce de... C'est-à-dire que moi, je ne connais pas du tout les conditions de vie d'un migrant en Algérie. Je les ai touchées de près, mais je pense que je ne réalise pas combien c'est dur. Mais en tout cas, il y avait il y avait quelque chose qui nous rapprochait avec ces résidents, c'est que bah, moi, je me sentais bien chez eux et en même temps, on était enfermés tous ensemble dans ce lieu où c'était, c'était finalement très difficile de nouveau raconter la société algérienne parce qu'on était, communautaire. Et ensemble, finalement, on s'y retrouvait bien à se cacher dans cette maison.
Moi, c'est Armel. Je viens du Cameroun. Je suis immigrant en Algérie. Voilà, ça fait presque 11 ans que je suis au Maghreb, mais ça fait 8 ans que je vis en Algérie. Et la situation, elle n'est pas favorable comme on le pensait, mais sinon, on tient le coup. Voilà. Je me disais, à l'étranger, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des frères partir et revenir avec un bon résultat. Voilà. Et c'est pas parce que je n'avais pas mangé chez moi ou je n'avais. Non. Moi, mon papa, il a conçu plus de 3-4 maisons. Mes grands-fils, tout le monde est au pays parce qu'eux, ils se sentent à l'aise au pays. Mais moi, je voulais sortir parce que j'essaie de regarder plus loin. Si je suis en Algérie, c'est parce que je veux du travail. Ouais. Quand tu arrives, non, tu es migrant, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de place ici. Et il y a certains Africains qui sont là, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils se retrouvent en train de faire de l'escroquerie. On est là, on n'a pas de travail, on n'a rien à faire. Comment on va faire pour vivre ? On le fait parce qu'on n'a pas le choix.
Rester en Algérie,
oui.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Mais alors, pourquoi on reste ?
Pourquoi on reste 70% ou 80% des Africains subsahariens qui sont ici, impossible de retourner chez eux. Ah ouais. Où il va aller habiter dès son retour ? Il ne peut pas entrer dans une maison familiale après avoir passé 5 ans, 6 ans dehors. Tes frères et tes soeurs, ils ont peut-être dû accoucher des enfants. Il y a une autre population à la maison. Tu ne veux pas rentrer après 7 ans dans l'aventure pour aller vivre dans la chambre que ton papa il a construite. C'est inacceptable. On est là, on est bloqué. On veut avancer. Bon, comment on va avancer ? Il y a deux chemins. Soit tu vas prendre l'eau, soit tu es un ami, un connaissant en Europe qui peut te faire des documents, il va venir te chercher. Mais tout ça, il faut des moyens. Et le moins risqué, c'est d'aller vivre à la frontière, au côté du Maroc. Moi, j'ai fait là-bas deux fois. Franchement, je ne peux pas insulter les frères qui vivent là-bas parce que moi-même, j'ai vécu, mais c'est inhumain. Voilà. C'est inhumain de vivre dans une forêt avec l'espoir un jour de grimper sur une barrière pour entrer en Europe. Il faut au moins 500 euros pour aller sauter la barrière. Il faut au moins 1000 euros pour prendre le bateau. Il faut au moins 3500 euros pour prendre l'avion. La famille ne peut pas t'envoyer l'argent. Tout cet argent-là, où tu vas le prendre ? Si on est là maintenant, c'est parce qu'on a toujours espoir que demain, ça peut changer. Cet espoir, ça ne peut jamais mourir. Même ce soir, avant de dormir, quelque chose peut changer pour lui. C'est à cause de ça qu'on est là.
Les résidents de cette maison ont toujours été invisibles pour moi. C'était les invisibles de la migration, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit peu, qu'on voit en Algérie quand on se promène autour de chantiers parce que c'est un pays en construction, qu'on voit à certains carrefours de grands boulevards parce que c'est un endroit de transit, mais finalement c'est des gens qu'on... Mes potes algérois, par exemple, me rendaient compte qu'ils méconnaissaient totalement la communauté migrante, en tout cas, parce que ça rassemble évidemment plein de gens, mais ils la méconnaissaient. Et donc les conditions de vie, bah, c'est pour les hommes du travail à la journée sur des chantiers, pour des patrons chinois ou turcs. Voilà. Pour les femmes, c'est encore plus dur. Il y a beaucoup moins de possibilités de travailler, si ce n'est pour les femmes ivoiriennes qui vont peut-être être, qui étaient en tout cas engagées sur des missions dans des hammams où elles massent les femmes algériennes. Voilà, c'est des conditions très précaires de vie. Il fait froid en Algérie. Quand on est en hiver, il fait très froid. Donc c'est des maisons où il n'y a pas de chauffage. Là, il se trouve qu'à un moment donné, le propriétaire de la maison avait coupé l'électricité. Donc il n'y avait plus de lumière, plus de chaleur. Enfin, oui, plus de chaleur. C'était aussi ce qui était assez marquant, c'était qu'en fait, les gens devaient continuer à rester très discrets dans leurs faits et gestes. C'est-à-dire que les femmes qui avaient... par exemple, qui s'habillent avec des habits moulants. Enfin, c'est des choses très simples, mais c'était des choses qu'il fallait qu'elles abandonnent parce qu'en fait, dans l'espace public, c'était difficile d'exister sans avoir un reproche de quelqu'un, d'un passant. Donc ça, c'est pour les femmes et les hommes. C'est souvent des hommes qui ne disent pas à leur famille qu'ils en sont là. C'est souvent des hommes qui... Donc, qui se tue à la tâche chaque jour pour gagner, c'est autour de 1500 dinars par jour. 1500 dinars, ça fait à peu près au taux de change actuel officieux, donc on est à 1 euro pour 200 dinars, de 7 euros quoi, autour de 7 euros par jour. Ça nous paraît très peu, mais finalement, en regardant un peu les possibilités qu'avaient ces résidents dans leur pays d'origine, c'est beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient gagner en CFA dans le pays en faisant un petit job informel à la journée, le même type de job. Donc ça, c'était un peu la soupape de respiration, c'est qu'il y a quand même des gens qui arrivaient à économiser, qui arrivent à économiser de l'argent, à renvoyer de l'argent au pays pour la famille qui est restée, à construire une petite maison. En fait, au fil du temps, on se rendait compte que pour beaucoup de gens, c'était l'Europe moins chère. Et en même temps, beaucoup de gens me disaient, mais si je reste ici, que je ne continue pas, je reste un migrant raté. Donc c'était des choses qui étaient, qui nous ont touchés, Leïla et moi, et qu'on avait envie de traiter de manière très, sans être forcément focus sur sous les feux de l'actualité où on parle tous de la question migratoire, parce que je pense que on est dans un moment historique où voilà, ces données sont en train de changer. Et nous, comme on avait l'accord des habitants, au bout des 3 ans, pour ce film, on a décidé de rester terre à terre sur le quotidien, et sur l'ennui, sur l'enfermement, sur ces questions-là. On s'est vite rendu compte que ces résidents, ils vivent un triple enfermement. Ils sont bloqués à 30 km d'Alger, ils sont cachés dans une maison, et ils sont enfermés dans un pays qui, actuellement, est en train de... est en train de durcir sa politique migratoire et en train de rafler des gens dans la rue. Enfin, c'est des choses qui se sont passées là ces 3-4 derniers mois. Donc la donne est en train de changer pour eux aussi. Parce qu'en fait, au départ, les gens qui sont là depuis 15 ans nous disaient on était très peu à rester sur place. Après, on continuait notre route et maintenant on reste sur place. Donc on est de plus en plus visible. Et puis les nouvelles vont très vite. Les réseaux sociaux sont très actifs, donc les gens au pays ont l'impression qu'il fait meilleur vivre en Algérie. Après, on a été aussi beaucoup marqué sur la, parler des conditions, sur la, tout l'imaginaire qui est fabriqué à partir de cette maison, à partir des réseaux sociaux, où en fait, quelqu'un qui a fait le voyage, qui a pris la route, va avoir du mal à raconter réellement dans quoi il vit. Mais va tout le temps un peu surenchérir sur sa réalité de vie en faisant des selfies, dans une boîte de nuit pour montrer que tout va bien, en se photographiant près d'un monument connu à Alger Centre, avec des belles lunettes copiées Gucci. Enfin voilà, il y a tout un imaginaire qui est travaillé, qui est très peu documenté finalement, mais qui est tronqué. Et aujourd'hui, on a retrouvé, il y a 4-5 résidents qui ont traversé la mer, qui sont maintenant en France, en Europe en tout cas. Mais on en a retrouvé en France, qui nous disent, effectivement, ça a été super dur d'arriver jusqu'à chez toi, donc à traverser la mer. Maintenant, on se réinstalle, on est dans des villes en périphérie, notamment à Clermont-Ferrand. On sent que c'est beaucoup plus facile d'exister, de se développer, de se redévelopper, de redémarrer quelque chose à Clermont-Ferrand, plus qu'à Paris. Mais toutes les choses qu'on a vécues, qu'on veut transmettre à nos petits frères ou aux gens qui sont à Alger, qui attendent qu'une chose, c'est de partir, elles ne sont pas du tout entendues. Et en fait, c'est presque si on nous faisait des reproches, c'est-à-dire quand on témoigne de la réalité, de la difficulté de se relancer en Europe, nos petits frères nous disent qu'on voudrait leur cacher la réalité pour pas qu'ils aient accès à cette réussite. Qui reste toujours quand même une espèce de fantasme collectif sur tout ira mieux si je suis en Europe. Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de raconter, qui nous a touchés.
Fin de la première partie, restez avec nous et avec Camille Milleron.
atelier@rfi.fr
Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes cette semaine avec le photographe et journaliste français Camille Milleron. Ce fou d'Afrique vient de mettre en ligne la série Blade Runner sur le site Afrique In Visu. Un projet au titre clin d'œil qui retrace le voyage de Kader, migrant ivoirien, d'Alger capitale du pays où il réside, vers Kohonan, son village natal, à la frontière ivoiro-guinéenne. Pourquoi avoir choisi de consacrer la majeure partie de son énergie, de son temps, de ses moyens à photographier le continent africain et le destin de ses habitants les plus modestes? C'est pour répondre à cette interrogation que nous avons souhaité rencontrer Camille Milran.
Mais en fait, chaque pays a évidemment sa temporalité, ça c'est pas tout le monde le sait, mais la temporalité algérienne, elle est celle-ci, elle est que bah, quand on est photographe indépendant, donc quand on est identifié avec un appareil photo, on est toujours, voilà. On peut être soupçonné de venir là pour d'autres intentions, on peut très vite être pris pour un espion alors que c'est pas du tout le cas, enfin, il y a un mélange des genres, il y a le média en tant que tel, n'a pas forcément bonne presse. Pour le pouvoir algérien, on le sait, les habitants ont envie de causer, ont envie de se confier une fois qu'ils savent qui vous êtes et là où va aller votre contenu et dans quel sens vous faites ce travail documentaire. Mais ça a pris beaucoup de temps de comprendre tout ça, ça a pris beaucoup de temps de comprendre comment on pouvait photographier les rues d'Alger, les rues d'Oran. Au départ, y a évidemment plein de choses qu'on a envie de photographier, puis on peut pas. Puis, par exemple, les façades d'immeubles... avec une femme qui étend son linge, ça peut devenir un grand grand problème, même si cette femme n'est qu'une silhouette au milieu de son linge, avec son beau balcon que les murs nous font penser, nous rappellent l'Algérie, Alger la Blanche, les bâtiments haussmanniens, qu'on a envie de la photographier très simplement, le plus simplement possible, ça peut créer un grand problème dans le quartier, parce qu'en fait on photographie pas une femme comme ça, à une fenêtre. Et au départ, moi j'avais du mal à... Je me disais, mais c'est une image d'ambiance, on est de loin. Et en fait, les potes proches d'Alger m'ont dit, mais non, mais ça peut déclencher des hostilités, à la fois de la femme en question, et puis des voisins qui voient l'acte photographique, qui ne l'acceptent pas. Donc ça fait partie de la temporalité aussi d'accès aux gens. C'est-à-dire qu'en Algérie, tout le monde a envie de vous raconter des histoires, drôles, pas drôles, raconter un moment de sa vie, parce que c'est un pays qui a été fermé, qui n'a jamais eu... Voilà, on n'a jamais donné vraiment la parole aux Algériens aujourd'hui. On reste toujours sur des choses passées, relatives à l'indépendance, etc. Mais maintenant, il y a des choses nouvelles qui s'y passent. Donc les gens ont envie de prendre part au débat et ont envie de se confier. Mais ils vont le faire une fois qu'ils ont confiance, une fois que vous êtes recommandé, une fois qu'ils savent qui vous êtes. Et ça, au départ, moi, j'avais du mal. Et donc les premiers voyages, je rentrais avec une photo, deux photos dans les disques, dont j'étais fier. Mais je sentais bien que c'était, enfin, j'avais les boules que ça soit aussi peu, et parfois je voyais des confrères qui arrivaient avec à produire une série de photos sur la même thématique, super belle, noir et blanc, tout ce qui va bien, et ça m'en renvoyait dans mes buts en me disant mais pourquoi, moi j'y passe du temps, pourquoi ça ne marche pas. Et avec le temps c'est venu, ça s'est débloqué. Et en fait tu parlais de démarche, et bah moi j'aime beaucoup revenir sur des lieux où j'ai déjà photographié, revoir les gens. Les suivre dans le temps, suivre leur évolution, comme ce que je peux faire avec Les Pieds dans la France et mes deux potes photographes Thierry et Stéphane. C'est, voilà, typiquement, c'est un projet où depuis 2009, on documente la France. Et en fait, il y a des épisodes, il y a des lieux dans lesquels on est revenu plusieurs fois, et ce pendant 2-3 ans. Et en fait, la confiance est là, les gens savent qui vous êtes et ils vous ouvrent leurs portes. Et en Algérie, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a des... Bolorine, donc le quartier où je vais en famille à chaque fois que je viens à Alger, j'essaie de le documenter à chaque fois que je peux y aller, que ce soit un mariage, l'Aïd, la grande prière du vendredi. Enfin, c'est des moments maintenant où je peux y aller très tranquillement en photographiant assez simplement ce qui s'y passe, parce que les gens m'ont reconnu, parce que j'ai ramené des tirages photos, parce que j'ai donné un peu de moi en fait. Donc Bolorine, c'est quelque chose qui va continuer d'être documenté. Je pense au... La question de la maison où il y avait la communauté migrante dans le cadre de Terminus Algérie, au fil du temps, on a aussi pu faire les images qu'on voulait, alors qu'au départ, c'était impossible, en fait. Ou alors, on restait sur des photos très anonymes, très anecdotiques, de dos, de mains et de détails. Mais en fait, les gens, pareil, se questionnaient, comme les Algériens, en fait, pourquoi on vient là et surtout, comment on va utiliser ce contenu-là. Est-ce qu'on va rester dans une utilisation très sommaire qu'on peut voir sur les chaînes du Tout Info, où on va chercher un angle très précis, puis on va taper dessus, on va appuyer dessus pour que ça soit vu. Et une fois que les gens ont compris ça, qu'on n'était pas sous un prisme médiatique fort, qu'on était sur du long terme, qu'on acceptait en fait de parfois venir, que ça soit à Bolorine ou dans cette maison, venir et finalement échanger les nouvelles, peut-être apporter des bouquins pour des gosses, et puis en fait repartir sans faire une photo, mais en fait pour mieux revenir la semaine d'après, pour y faire ce qu'on avait imaginé, quoi. Et là, ce qui fait sens après 12 ans de photographie, je me rends compte que cette démarche commence à... Enfin, j'y crois de plus en plus, quoi, en fait. De ne pas être forcément dans un rythme effréné de publication, de recherche d'infos, d'être forcément sur de l'enquête. Non, parfois, c'est juste raconter le quotidien, ça veut dire s'immerger chez les gens et en retirer un contenu documentaire qui reste quelque chose de très banal, mais qui raconte le quotidien, en fait, sans forcément d'angle.
Tout à l'heure, tu nous as décrit la scène de cette dame qui étend son linge sur l'immeuble et on avait l'image, quoi, même si on est à la radio. Qu'est-ce que c'est l'écriture photographique pour toi? Quand tu dis travailler mon écriture, développer mon écriture, etc. Comment tu pourrais expliquer à des gens qui ne voient pas ce que tu fais déjà et même à la plupart des gens, moi y compris, qui ne savent pas ce que c'est qu'écrire par l'image. Qu'est-ce que c'est pour toi l'écriture photographique?
C'est de pas se laisser aller à des envies que esthétiques, donc c'est d'avoir une manière de photographier, moi je suis plus proche du reportage, de l'image d'ambiance, d'être dans la retranscription d'un moment vécu ou d'une rencontre, mais je suis aussi attiré comme tout bon photographe par le côté esthétique des choses, c'est-à-dire la belle lumière, donc faire correspondre à la fois... Et réussir à retranscrire au mieux la rencontre avec un sujet, avec une personne dont le parcours est fort, le lier avec des envies esthétiques, donc la lumière qui est là, qui se propose à vous, et puis réussir à l'enregistrer au mieux. Et troisième phase, faire coexister ces images, ces instantanés, avec des légendes qui sont à mon avis incontournables pour restituer le contexte et pour rester dans une démarche documentaire et ne pas être que dans une démarche esthétique.
Je voulais parler de ma ville et de ce monde qui va mal. Parler du jeune qui s'endort sous le pont du canal et ses bombes artisanales et les secondes sur ma montre qui cavale et ses peuples de l'ombre qu'on rafale et tombe. Je voulais parler de cette fille typique qui se pique, qui espère sortir de sa vie si vite, si triste, si lisse, respire, oublie l'aiguille qui glisse, si flou. Je voulais parler de cette pop star, cette idole qui le soir dans la chambre s'en rend toute seule. Tous ces mômes qui s'échappent d'une vie molle en cherchant l'amour sur Google. Je voulais parler de ce type qui n'a plus de nerfs. Il a pété un cap, fallait parier. Et la seule chose qui l'empêche de se foutre en l'air, c'est qu'il y a déjà plus de balles dans le barillet.
Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête, que ça tire en l'air à moi pop pop pop. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes avec des gros boules et du mascara. Et les filles, elles veulent des bonhommes avec des grosses couilles, pas de bla bla bla.
Mes potes me disent, pourquoi vous faites pas comme les autres, alcool et weed? Au fond, tu sais, c'est pas de votre faute, c'est ce qu'ils visent. Vous toucheriez le pacte. Personne écoute les paroles.
Personne, personne,
personne écoute les paroles.
Personne, personne,
personne écoute les paroles.
Personne, personne,
personne,
personne,
personne,
personne,
personne écoute les paroles.
Je voulais parler des tu veux faire quoi plus tard qui paralyse, des deux trois pétards dans la valise et des idées noires qu'on a pendant la dialyse. Ah, faudrait que je me canalise. Je voulais parler de nos peurs et puis de toutes nos chaînes. Le monde dans lequel on vit devient trop homogène. Les plaines se remplissent de drôles de graines. Si je t'aime, je t'offre un bouquet d'OGM. Je voulais parler de ce politique devant la foule qui serait vainqueur du tournoi. Qui dit je le fais pour vous, mais qui pense voter pour moi.
Je voulais parler de ces otages, de la misère et du chômage. Si la guerre devenait otage, serre-moi un grand verre de soda.
Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Ils veulent des refrains pour se vider la tête, mais ça tire en l'air à moi de pop pop pop. Et les mecs, ils veulent des meufs bonnes avec des gros boules et du mascara. Et les filles, elles veulent des bonhommes avec des grosses couilles, pas de bla bla bla.
Mes potes me disent, pourquoi vous faites pas comme les autres, alcool et weed? Au fond, tu sais, c'est pas de votre faute, c'est ce qu'ils visent. Vous toucheriez le pacte. Personne écoute les paroles.
Personne.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Camille Milran, photojournaliste qui travaille en grande partie sur le continent africain, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, mais aussi le Mali ou le Sénégal. Son dernier projet, qu'il a mis en ligne sur le site Afrique In Visu, s'intitule Blade Runner et raconte le périple de Kader, ivoirien de 31 ans, entre Alger, capitale de son pays de résidence, et Kaonan, son village natal au nord-ouest de la Côte d'Ivoire.
Alors en fait, avec Kader, on se rencontre pas dans la maison à 30 km d'Alger, on se rencontre à Oran, fin 2015, début 2016. Leïla connaît Kader parce qu'elle y vit en permanence, donc voilà, elle connaît. Et Kader,
en fait... Elle vit en Algérie, hein, pas à Oran.
Elle vit en Algérie, ouais. Et il se trouve qu'on travaille sur les mêmes questions, donc sur la question migratoire. Lui est agent de terrain, en fait, fait de l'aide à l'accès aux soins pour la population migrante, fait de la sensibilisation au risque de maladie dans différents ghettos d'Oran où vivent des migrants, aide administrativement des gens pour que leur situation s'améliore, enfin voilà. Il travaille pour une association qui n'a pas le droit de citer en Algérie, donc il faut qu'elle reste anonyme, mais... Voilà, on se rend compte parce qu'en fait, avec Leïla, on fait quelques images pour Amnesty International sur cette question-là. Et puis en fait, très vite, on se rend compte que Kader a une parole qu'il faut qu'on entende. Et en fait, on fait une interview avec lui qui sera restituée dans le cadre d'Amnesty. Kader, lui, il est arrivé en 2009 en Algérie, il est arrivé par la route. Et en fait, lui, il s'est stabilisé parce qu'il a eu la chance de rencontrer, c'est un peu comme à l'école, des gens qui ont été déterminants sur la suite et qui l'ont un peu tiré de... Bah, de cette précarité, de cette difficulté d'existence, et donc du coup qui lui ont permis vite de reprendre des cours à la fac et de s'investir dans cette association humanitaire. Et puis en fait, nous on devient super potes très rapidement, parce qu'on partage plein de choses en commun, et en même temps, on est à peu près au même niveau de compréhension, enfin, chacun accepte la manière dont travaille l'autre, comprend la manière dont travaille l'autre. Kader accorde beaucoup de crédit au projet Terminus Algérie, nous recommande d'autres familles ivoiriennes avant qu'on passe au film, ce qui va nous permettre de comprendre aussi la situation des Ivoiriens en Algérie, qu'on avait peu touché avant parce qu'on était plutôt avec des Camerounais ou des Maliens. Voilà, et on devient potes, quoi. Toute 2016-2017, on se voit plusieurs fois, mais voilà, je lui rends visite avec mes sœurs et mon père pendant un voyage d'été, pendant les vacances, enfin... Les choses sont très simples. Et puis un jour, c'était il y a 8 mois, dans un échange comme ça, après le mois de la photo, après le travail à Aubervilliers, je lui dis « Écoute, j'aimerais beaucoup retourner, faire un voyage dans l'autre sens, retourner un peu sur les traces du voyage initiatique que m'a permis de vivre mon père. » Donc je lui avais raconté et tout, et il arrivait en Côte d'Ivoire. Et il me dit mais moi, il y a un moment donné où je vais devoir retourner au pays pour écrire la suite de mon existence, quoi. Parce qu'en Algérie, je vais pas y rester plus longtemps. Enfin, à un moment donné, il va falloir que je parte. J'ai envie de me marier. J'ai envie de vivre simplement, sans être vu. Et j'ai envie de disparaître. Enfin, parce que voilà, la complexité de la société algérienne étant que, bah, parfois, on est quand t'as la peau noire dans les rues d'Oran. Alors, c'est moins compliqué qu'Alger, mais c'est parfois difficile, quoi. Les gens sont un peu hostiles. Même si Kader, en fait, j'ai bien compris, il m'a dit très vite, moi, c'est l'Algérie qui m'a accueilli, qui m'a ouvert ses bras, et c'est grâce aussi à des Algériens que j'ai rencontrés que j'en suis là où je suis, quoi. Donc il me dit, ouais, moi, il y a un jour où je vais repartir chez moi, je te tiens au courant. Et puis, on se donne des nouvelles, etc. Et donc moi, je fantasme complètement le truc, je lui dis, bah, écoute, pourquoi on ne fait pas le même parcours que j'ai fait avec mon père en traversant par la route les frontières? Donc Maroc, pourquoi? Parce que c'était impossible qu'on parte par la route depuis l'Algérie. Parce que impossible pour moi de passer à Tamanrasset, Rasset, etc. Pour des questions de visa, tout simplement, et de présence au sud de l'Algérie en tant que photographe français. C'est une région compliquée, avec des chefs communautaires, avec des groupes djihadistes, avec des trafiquants, des Touaregs, enfin voilà. Tout de suite, on a abandonné cette idée, donc je lui dis, mais pourquoi on part pas du Maroc et on refait ce périple Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Et puis lui, il me dit, ouais, mais bon, il y a Mauritanie, tu passes par la route, je suis pas sûr que ça soit cool pour toi. Moi, ça passe partout, je les connais ces endroits-là, mais toi, c'est pas sûr. Et puis ça va nous prendre du temps, et puis en fait, bon, on garde ça dans un coin de notre tête. Et en septembre dernier, Kader me dit, j'ai pris une décision, en janvier 2018... je dois aller faire un voyage d'un mois, un voyage exploratoire, pour réfléchir à la suite de mon parcours professionnel. Donc je veux retourner dans ma famille et je vais retourner dans mon village familial, dans le but de lancer une activité agricole ou autour de l'agriculture. Donc je lui dis, donc super, il accepte qu'on parte ensemble. Donc voilà, la date est prise et le 21 janvier 2018, on se rejoint, on se retrouve à Alger. Lui vient d'arriver d'Oran en train. Et là commence notre périple intitulé Blade Runner.
Est-ce que tu peux me faire un clap ?
Donc un clap, comme ça ?
Ouais. Kader, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on en est où ? On va faire quoi ? On est à 2 heures de quoi là ?
On a 2 heures du départ. Voilà, les grands départs. Là, c'est les derniers réglages, ranger les affaires et voilà, on va faire la première partie du voyage.
Alors, c'est quoi le voyage ?
On est à Alger, précisément, et on va descendre à Bamako cet après-midi, ou en fin de journée, 17h, et on sera à 20h à Bamako, on va y passer quelques jours. Ensuite, on descend sur Abidjan. Abidjan, on y passe quelques jours, on va voir quelques personnes et... Ensuite, on va chez moi, d'abord à Djoukoué, voir la famille, notamment le papa, mon père. Ensuite, à Man pour voir ma soeur et mes neveux, mes nièces. Et ensuite, on descend à Touba, le chef-lieu de ma région d'origine. Ensuite, on arrive au village, c'est le terminus, à Kouna, ouais. C'est au nord-ouest, on va dire. Sinon, à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, vers la frontière guinéenne.
Toi, t'es arrivé quand en Algérie ?
Moi, je suis arrivé depuis 2009.
Et t'es arrivé comment ?
Je suis arrivé comment ? Je suis arrivé le même trajet, on va dire. Mais sauf que c'était par route. Abidjan, Bamako, Bamako, Gao, Kidal, Algérie. Et voilà. Et c'est le même trajet, sauf que là, maintenant, c'est un avion.
Alors, en fait, avec Kader, on se retrouve le 21 janvier à Alger. Kader arrive d'Oran, moi, j'arrive de Paris. Et là commence le grand voyage, comme l'appelle Kader. Refaire presque le même périple qu'avec mon père, c'était compliqué pour une quantité de raisons, mais aussi une raison de temps et de coût. Donc là, on s'était recentré sur... On passe par Bamako, on prend le bus à Bamako, on rejoint Abidjan, et d'Abidjan, on continue à prendre les bus et la route pour aller jusqu'à son village à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, donc à 18 km de la frontière guinéenne. Ça, c'est notre point final. Donc on se pose à Bamako, on prend le bus Senef. Donc Senef, c'est une compagnie de bus que tout le monde connaît sur le continent. Et donc on prend ce bus à 17h le 24 janvier. Et on sait qu'on arrivera 24 heures plus tard à Abidjan. 4 jours plus tard, on reprend un bus depuis Adjamé et on se rend à Doué-Coué. Donc Doué-Coué, c'est dans l'ouest du pays. C'est là où vit le père de Kader, qui nous donne les nouvelles et les recommandations, en tout cas à lui, parce qu'en fait, on passe 2 jours chez son père, et le lendemain, on reprend la route, donc on fait toujours en bus, on fait Doué-Coué, Touba. Touba, c'est le chef-lieu du département, donc on est tout proche du village de Kader, qui s'appelle Kounan. Et puis le lendemain, on change de moyen de transport, c'est une mobylette qui nous amène jusqu'au village de Kader. Donc c'est un cousin de Kader qui conduit, on est à 46 km du village et on se fait 46 km de chemin de terre à 3 sur une moto. Mais assez vite parce qu'on est très content d'arriver enfin au village. Donc on arrive au village, salutations familiales, les cousins sont là, on est accueillis dans la cour, les tantes sont là aussi, les petits-neveux, les nièces... Il y a un tour diplomatique qui s'impose donc du chef de terre, donc on rencontre tout de suite le chef de terre du village. Donc c'est en gros la personne la plus âgée du village, mais qui est responsable de le fait d'octroyer des terres ou pas à des gens qui voudraient développer une activité. On rencontre le chef du village aussi, le maire. Donc ça nous prend 2 jours. Et puis l'avant-dernier jour, avant de reprendre la route vers Abidjan, on a la chance donc de visiter... à une quinzaine de minutes en moto de Kounan, les terres qui vont être octroyées à Kader par filiation. Et ça a permis, cette visite-là a permis à Kader de resituer le propos et le contexte et son intention, donc d'expliquer qu'il était en mission exploratoire. Il se trouve qu'il a envie à la fois de faire de l'appui au développement agricole, donc très, très concrètement, ramener des outils qui vont permettre d'améliorer la productivité agricole de ses cousins, notamment de son homonyme qui s'appelle Moriba, Bamba. En fait, j'ai découvert que Kader s'appelait Moriba aussi, et qui va être un peu en charge de l'exploitation de ses 30 hectares. Il va, par exemple, comme idée de Kader, c'est de développer de l'engrais biologique et de plus faire appel à de l'engrais produit par les Chinois pour que ça pousse plus vite. Parce que la terre est tellement riche qu'on peut produire cet engrais-là. C'est aussi ramener des outils de production comme une débroussailleuse, comme une tronçonneuse qui va permettre de gagner du temps et d'être un peu plus effectif dans la manière de nettoyer les terrains disponibles. Parce qu'en fait, là, Boriba, son cousin, il bosse concrètement qu'avec une machette, quoi. Et tout le monde déblaye son terrain avec une machette. Enfin, c'est des choses qui peuvent paraître être des détails, mais qui en fait vont permettre de nourrir son envie de développement d'exploitation agricole, qu'il a envie de faire d'une manière raisonnée. Il a envie de faire de la pisciculture parce qu'il y a des courants d'eau dans lesquels on peut réintégrer des poissons pour qu'il y ait de la pêche qui se fasse. Et ça peut être aussi un lieu de résidence pour des gens qui ont envie d'avoir un lieu très calme et dans une maison au bord de l'eau sans qu'il fasse trop chaud. Le but de Kader, c'est pas, et parce que ça a forcément nourri toutes les rumeurs du village, ce n'est pas de lancer une exploitation d'une grande taille qui va faire beaucoup de profit pour exporter tout ça en Europe. C'est pas ça son envie, quoi. L'envie, c'est d'être dans quelque chose de raisonné à petite échelle qui va profiter surtout à la communauté. Lui, il dit tout le temps, moi, j'ai été migrant par la route, j'y suis venu deux fois en Algérie, je me suis rendu compte de plein de choses, j'ai connu des conditions difficiles. Et puis maintenant, je travaille sur l'accueil de petits frères ou de confrères ou de camarades de route qui passent par l'Algérie, qui continuent de me raconter la complexité de tout ça et puis qui, quand bien même, visent l'Europe. Et je trouve que c'est du gâchis et je trouve qu'il faut réinvestir tout le capital humain, culturel que j'ai gagné en Algérie et de connexion, le réinvestir dans mon pays, quoi. Il n'est pas du tout dans l'utopie de dire ça va freiner l'exil, il le sait, il dit ça va toujours se passer, ça va continuer, on n'arrêtera pas ce phénomène-là. Mais si moi je peux réinvestir ce que j'ai appris, ce que j'ai gagné depuis Alger là-bas pour que ça profite à d'autres, déjà j'aurais réussi un truc, réussi à répondre à un besoin, quoi, de développement de mon village. Et en fait, c'est assez cohérent quand tu... Donc le voyage s'est fait en 17 jours. On a, avant d'être 4 jours au village, on en a passé 13 dans des milieux plutôt très urbains. Donc notamment Abidjan, des villes moyennes comme Doué-Coué, mais des villes qui sont très peuplées. On s'est rendu compte que le business, il n'est pas forcément là dans ces grandes villes où beaucoup de gens sont dans l'informel, sont sur des petits jobs. Des petits diossi, comme on appelle ça en nouchi, quoi. Des petits jobs à la journée où tu vas gagner tes 1000 francs, mais tu vas rien construire derrière. Et en fait, les potentiels du village naturel donnent beaucoup plus de gages de crédibilité et d'envie de développement sur du 10 ans, 15 ans, que la vie en milieu urbain où c'est sale, pollué, il y a du monde, et tout le monde court après l'argent, tout le monde se cherche. Donc, du coup, ça... J'ai compris la cohérence de tout ça et j'ai compris là où il voulait en venir et le potentiel. C'est-à-dire que c'était bien qu'on quitte le village à un moment donné parce que moi-même, je commençais à être tropicalisé dans le sens où, ça y est, j'avais envie de participer à la création de son exploitation agricole. J'ai commencé à couper des choses avec une machette pour voir comment ça faisait. Enfin, je commençais à rentrer dans un trip. Je suis proche de la terre, c'est ça qu'il faut faire, c'est l'essentiel. Donc c'était bien de quitter pour retourner dans son petit quotidien et rentrer dans de bonnes conditions en France.
Et produire du coup les 4 premiers épisodes de ce que tu as appelé Blade Runner.
Ouais, plus le Blade, BLED, Blade Runner en référence au film et référence aussi à la manière dont on allait voyager. C'est-à-dire qu'on a fait ce voyage à peu près, que j'ai décliné en 4 étapes sur Afrique in Visu, sous forme de chronique, comme on fait depuis 10 ans. Et c'est aussi un voyage qu'on a fait... comme on aime à dire tous les deux, comme des blédards, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé, on n'a pas fait ça avec des gros moyens, on allait dormir chez des amis, on a pris tout type de transports en commun, c'était certaines conditions qui nous renvoient à ce qu'on appelle les conditions du bled, le blédard, la débrouille, quoi, mais en fait la débrouille heureuse où on trouve toujours une manière d'arriver à notre fin. I walk alone, I drink alone.
C'était Camille Millerand, l'Afrique dans le viseur, une émission signée Simon De Creuse et Ziad Malouf. En coulisses, Mathilde Saliou, Léo Caravagna et Camille Deloche. Vous avez pu entendre dans l'émission des extraits de reportages réalisés par Leïla Berato pour Radio France Internationale. Un petit film existe également sur le périple de Kader et Camille Millerand. Vous le trouverez en lien sur la page de notre émission et vous trouverez aussi un lien vers Afrique in Visu, le site qui accueille la plupart des chroniques africaines de Camille Millerand. Salut à toutes et à tous.